Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h52, on est de retour sur RMC Story pour la dernière partie d'Estelle Midi. On est toujours en compagnie, bien sûr, de Rémi Barré, de Thierry Moreau, de Julien Damon et de Fred Hermel. Nous sommes le 24 novembre, nous sommes à un mois tout pile de Noël et donc dans un instant, dans Estelle Midi, on va se poser cette question. Écartez les enfants du téléviseur. Faut-il dire toute la vérité aux enfants concernant Noël, si vous voyez ce que je veux dire. Dites-moi un petit peu comment ça se passe chez vous, si vous avez dit la vérité à vos enfants ou si vous essayez de la cacher le plus longtemps possible. On vous attend bien sûr au 32-16 ou sur l'application RMC. 14h30, RMC s'engage pour vous et Élise Dangean tentera d'aider Éline. Éline, c'est un auditeur en arrêt de travail qui n'arrive pas à se faire indemniser. Et puis il y aura bien sûr les immanquables. Rémi, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, on a quoi dedans?
On parlera notamment de la tension, des tensions avec une violence inouïe en ce moment à Mayotte, ah oui, département français. Hein. On parlera de la hausse des prix des jouets alors que Noël approche. Puis le Parc des Princes, le PSG pourrait très bien ne plus jouer.
Non mais ça c'est pas possible.
Je vous raconte.
Je vous explique, c'est pas possible.
Ouais, on verra.
Ah non mais c'est pas possible.
Ça t'arrange pas?
Oui, c'est au côté de la maison, ça déjà.
Oui, oui,
et puis ensuite, mais non mais ça m'arrange pas du tout. Mais enfin, on a la chance à Paris d'avoir un stade en pleine ville. C'est de plus en plus rare. On va quand même pas l'enlever au profit du Stade de France. Bon, bref, c'est mon avis. Et ça, ce sera dans les immanquables vers la fin de l'émission.
RMC Estelle Midi.
Petit papa. Donc
c'est bientôt. C'est dans un mois tout pile, le Père Noël qui va descendre dans la cheminée. Si vous avez des enfants, je vous l'ai dit, éloignez-les de la télé, car vous êtes beaucoup de parents en ce moment à vous poser cette question. Faut-il dire toute la vérité aux enfants concernant ce bonhomme rouge qui distribue des cadeaux? Sachez quand même qu'une maman vient de porter plainte contre une enseignante qui avait dévoilé la vérité à ses jeunes élèves.
Ça se passe à Aubord, dans le Gard, 2400 habitants, un bras de fer entre une enseignante d'une école élémentaire et une famille d'élèves. Bon, alors il faut quand même préciser que le conflit ne date pas d'hier, hein, puisque la mère de famille a déposé plainte contre l'institutrice pour des violences qu'aurait subies son fils. De son côté, l'enseignante a également porté plainte contre la maman pour harcèlement, menaces et outrage. On voit l'ambiance. Et donc, dernier épisode en date, effectivement, Estelle, la mère de famille qui reproche à l'institutrice d'avoir déclaré aux enfants que le Père Noël n'existe pas.
Rémi, en moyenne, jusqu'à quel âge les enfants croient-ils au Père Noël ?
8 ans environ. Alors, c'est ce que révèle une vaste étude réalisée par un psychologue de l'université d'Exeter au Royaume-Uni. Il a demandé à des personnes du monde entier de répondre à un questionnaire dans lequel il expliquait l'âge et les raisons pour lesquelles ils avaient arrêté de croire au Père Noël. Il a aussi demandé aux participants de dire si cette découverte avait nui à leur confiance, à la confiance qu'ils avaient envers leurs parents. Il a quand même eu plus de 1400 réponses. Mmh. Et selon ces résultats, 15% des répondants se sont sentis trahis par leurs parents lorsqu'ils ont découvert que le Père Noël n'existait pas.
Bien sûr.
Un tiers s'est senti contrarié en découvrant que le Père Noël n'était pas réel. 34% affirment qu'ils auraient aimé continuer à croire au Père Noël. 65% des répondants avouent avoir prétendu croire au Père Noël alors qu'ils savaient que c'était un mensonge.
Et pour quelle raison?
Ça aussi. Bah, on veut pas décevoir. Les parents nous disent que le Père Noël existe, donc on veut pas contrarier les parents ou les décevoir. Donc on dit
voilà,
oui.
On croit que les parents y croient. Voilà. Et on
exactement,
dit,
exactement.
Les pauvres, oui. On va pas leur dire la vérité.
Et enfin, c'est intéressant, 31% des parents ont même menti à leur enfant, affirmant que le Père Noël existait réellement, même quand ils ont découvert qu'il n'existait pas. Papa, maman, c'est vrai que le Père Noël existe pas. Mais non, il existe. Voilà,
pour avoir la paix.
31% quand même des parents continuent.
Ouais.
C'est une question épineuse et délicate. Je vois faire la moue, Julien Damon. Est-ce qu'il faut dire toute la vérité aux enfants?
Mais je pense qu'il faut dire aussi la vérité aux adultes. Et la vérité, c'est que le Père Noël existe. Le Père Noël existe, c'est un monsieur à barbe tout à fait sympathique qui travaille en Laponie dure toute l'année et qui, avec des rennes, vient distribuer un cadeau dans nos cheminées. Enfin, c'est une vérité incontestable et ce révisionnisme ici m'énerve. Et c'est vrai aussi des adultes qui savent en France, eux, on ne leur dit jamais... Je ne comprends pas pourquoi que ça n'est pas vrai. Il y a un personnage tout à fait sympathique qui s'appelle l'État et qui vous permet d'aller gratuitement à l'hôpital.
Je sens que vous déviez du sujet.
Il y a un peu d'ironie dans mon affaire pour dire que le Père Noël, on y croit quand même.
On peut écrire gratuitement au Père Noël quand même.
Tard.
C'est l'État qui le permet.
La France était hyper singulière parce qu'on pouvait écrire gratuitement au Père Noël. Je pense que ça ne fonctionne
encore,
plus.
Hein.
On peut toujours le faire. Sauf que la Poste répondait. Et ça, c'était absolument grandiose. C'est-à-dire que sur nos
impôts,
répond
toujours.
Je ne crois pas.
Je
ne crois pas. Mais écoutez, on vérifiera. Mais j'espère que. Justement, ça prouve bien que les Français croient au Père Noël. Quelle aberration que la Poste ose répondre. Ça coûte une fortune. Et je trouve que.
Ou quoi ?
Bah oui,
vous voulez que la Poste
ne
réponde plus aux enfants ?
Ah oui, oui, je pense que c'est aberrant qu'elle fasse croire que le Père Noël existe, ça c'est sympathique, mais alors il devrait facturer aux parents ce service.
Ouais. Oh là 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 là.
Non, c'est dur, hein. Ah, c'est dur.
Fred Hermel,
alors,
à quel âge vous avez arrêté d'y croire ?
Ben, c'est au caté, moi, que j'ai appris que le Père Noël n'existait pas, mais pas du tout pour des raisons religieuses. Hein. C'est parce que
oui, parce que tu crois pour d'autres trucs quand tu vas au caté.
Oui, bien sûr, tu crois pour d'autres trucs. Non, mais en fait, c'est en discutant avec les gamins, etc. Enfin, tu vois, et puis on a posé la question à. Ça s'appelait Carole à la catéchèse et qui nous a dit ben non, et moi, ça m'avait.
Et t'avais quel âge ?
15 ans.
Oui,
non, je sais pas, j'avais
regardé. Elle était gentille, Carole.
Comme ça. Alors, par contre, le truc, c'est que je n'ai pas d'enfant, mais j'ai mon neveu. Bon, maintenant, il est grand, mon ami Nou, il a 19 ans.
Oui,
mais j'étais chargé de m'habiller quand il était petit, c'est moi qui m'habillais.
Ah, vous avez fait Père Noël ?
Oui, pendant de nombreuses années.
Mais vous passiez par la cheminée ?
Non. J'étais déjà
bien
carré.
Oui.
Non, mais en fait, le truc, c'est qu'il faut laisser aux enfants commencer à avoir les doutes. Et parce que les enfants eux-mêmes se préparent. Parce que moi, je prétextais toujours « Ah, il faut que j'aille faire de la radio. » J'allais dans ma chambre et je dis « Je dois faire de la radio au téléphone. » Puis mon neveu, un jour, il m'a dit « Mais tonton, pourquoi à chaque fois que le Père Noël vient, t'es en train de faire de la radio ?» Et petit à petit, ça a commencé. Et je pense que c'est moins violent pour les enfants quand ils commencent à douter un petit peu. Et puis même à un moment, ils n'y croient plus. Mais ils font semblant d'y croire parce que les cadeaux vont durer. Donc je pense que ça ne peut pas être un truc abrupt. Il faut que les enfants, petit à petit, se rendent compte de la réalité de la chose.
Mais moi, en fait, je trouve ça très beau, hein, le fait que des adultes se déguisent, etc. Et en même temps, je trouve ça affreux. Parce que, non, mais je trouve ça horrible parce que c'est le pire des mensonges, en fait. Que vous disiez rien ou genre, oh, bah, je ne sais pas trop, nanana. Mais qu'en plus, vous poussiez le vice, parce que c'est un vice, quelque part. À vous déguiser, à faire comme si, à faire croire à l'enfant.
Un
maximum. Mais non, mais je trouve ça affreux.
Attends,
en fait.
Et Damien, un jour,
c'est
m'a dit
presque pervers.
Tu sais comment je le voyais, tonton ? Dans tes yeux. Parce que je reconnaissais les yeux du Père Noël. Il y avait
vous vous rendez compte si l'enfant vous reconnaît ? Mais je trouve ça horrible. Enfin, je ne critique pas votre famille, Frédéric. Mais enfin,
oui, bah, je suis pas la seule famille de France et de Navarre à avoir déguisé
quelqu'un. Personne n'a jamais fait ça. Enfin,
il n'y avait pas de.
Non. Que... Personne ne se déguisait pour nous faire croire quoi que ce soit. Ah bah non, pas du tout.
Non, on disait, ah, il est passé pendant qu'on n'était pas là, il est parti, etc. Il y avait personne qui
disait. Moi, j'ai toujours été très comédien.
Mais je trouve
ravi,
que
c'est le rôle de ma vie.
Je trouve que sur ce plateau, vous êtes quand même des représentants des bisounours, parce que en fait, à quel moment on l'apprend le plus souvent ? C'est dans la cour de récréation.
C'est vrai, ouais.
Pour
oui,
la majorité des moments.
Aussi,
mais bien sûr
pas.
Que si, on l'apprend très vite dans la cour de récréation et souvent en classe élémentaire. Ouais. Et je dirais que c'est une sorte de parcours initiatique.
Oui, c'est ça. Oui, non, on est d'accord.
On est moins un enfant, on devient un ado. Puis il y a d'autres trucs qui nous font passer de l'âge d'ado à l'âge d'adulte, etc., etc. Ça fait partie des étapes importantes, je pense, du processus de.
Mais il ne faut pas que ce soit violent quand ça vient des enfants.
Mais c'est jamais violent.
Non, mais quand les parents du jour au lendemain.
Non, mais excusez-moi, on n'en veut jamais à ses parents de nous avoir à un moment dit que.
Voilà, faut arrêter. C'est mieux que quand ça. Ça vient d'un copain. Il y en a
revanche, ah non, c'est nous des parents.
Non, mais un copain qui te dit non, il existe, et l'autre qui dit mais non, il n'existe pas et tout ça. Tu vois, petit à petit, que le doute profite à. Qui a un petit doute à un moment, ça permet.
Là où je te rejoins, c'est que même si dans la cour de récréation, on te dit le Père Noël n'existe pas, tu continues quand même
bien sûr.
Peu à y croire. Moi, on me l'a dit dans la cour de récréation, puis après, j'ai grillé mon père qui était en train de construire un des cadeaux Noël parce que je me suis levé alors qu'il ne m'entendait pas et je suis arrivé, il était en train de construire un cadeau de Noël qui était un château.
Et t'as fait 15 ans de psy,
un village de cow-boys, donc je l'ai grillé. Mais bref, c'est tout ça pour dire que ça fait partie des étapes. Après, pour revenir à l'histoire de départ, je trouve ridicule. Alors, il y a des plaintes de part et d'autre sur cette histoire. Je pense qu'aujourd'hui, nos tribunaux sont suffisamment encombrés
pour
pas que ça devrait se régler par une médiation, cette histoire, et non pas par des plaintes, parce que ça encombre les tribunaux. Alors, une fois qu'on a fait ça, je pense que l'apprentissage se fait dans la cour de récré. Et voilà, donc on cache rien aux enfants.
Rémi, vous avez plein de messages sur l'application RMC.
Oui, j'ai ce message d'Anne-Marie, par exemple, qui nous dit « Bonjour, j'ai deux enfants de 20 et 12 ans et je ne leur ai jamais fait croire au Père Noël. » Voilà ce qu'elle nous dit. Puis j'ai un message un peu plus raide quand même, celui de Julien qui nous dit « Un jour, ma mère m'a dit, Julien, tu préfères que je te dise la vérité sur le Père Noël ou que je t'apprenne que tu as été adopté ?»
Non,
il nous dit « Le choix fut vite fait, choisissez toujours d'annoncer le plus grave et le superflu passera tout seul. »
Mais quel âge ?
À quel âge ? Il avait 20 ans ?
C'est terrible.
C'est qu'on a l'impression d'une scène du Père Noël et d'une ordure.
C'est affreux.
Enfin, du coup, il l'a bien pris.
Oui.
Qu'est-ce qu'il a bien pris ? Qu'est-ce qu'il a bien pris ?
Le fait qu'on lui dise que le Père Noël n'existe pas.
Voilà.
C'est terrible. On est avec Élise, qui nous appelle de Lyon. Bonjour, Élise.
Bonjour, Estelle. Bonjour à tous.
Et merci
bonjour,
d'être avec nous sur RMC Story. Élise, vous avez deux enfants de 2 et 6 ans, donc c'est encore l'âge auquel on croit au Père Noël. Vous allez leur dire la vérité ou vous laissez les choses se faire ?
Je laisse les choses se faire et en attendant, je trouvais une explication qui me semblait un bon compromis.
Mais c'est-à-dire ?
Eh bien, moi, j'ai raconté à mon grand que le Père Noël, il existe, mais qu'il n'offre pas tous les cadeaux. Il offre un seul cadeau.
Ah, oui, bien
sûr,
c'est bien
il ne peut pas s'occuper de tous les cadeaux. Et les autres cadeaux, ben, c'est nous, les adultes, qui les offrons. Et donc, je me sens un peu moins menteuse. Et donc, c'est un compromis, je trouve.
Ah, parce que moi, je pensais que vous aviez fait ça par souci d'économie. Je trouvais ça hyper malin de dire aux enfants, le Père Noël ne peut amener qu'un seul cadeau.
Oh, ça,
donc, en fait, t'en auras qu'un. Et je trouvais ça génial, en fait. Je me disais, mais ça
si
pour faire des
sage.
Économies, c'est extraordinaire.
Alors, ça, c'est de la radinerie, ça. Ça, c'est pas faire
de
des économies.
C'est juste c'est le bon sens. Parfois, t'offres des cadeaux Noël à deux enfants qui ont un an. Enfin, en vrai, ça sert à rien. Ils savent même pas que c'est Noël. Donc en fait, voilà.
Ils sont très, très, très intelligents.
Mais après, la technique d'Élise, elle est pas mal.
C'est pas mal. Non, c'est bien.
Ouais, je trouve ça plutôt
c'est
un semi-mensonge. Je trouve que ça se passe bien. À 6 ans, il n'a aucun doute, Élise, votre grand ?
Non, ça va. Pour le moment, il ne pose pas trop de questions. La semaine dernière, il est allé voir le Père Noël. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il était absolument affreux. Alors que nous, en voyant les photos, on s'est tous fait la même remarque en disant il a déjà un très grand nez, alors que le Père Noël, normalement, il a un joli petit nez. Il n'avait pas de grosses joues, celui-là était tout maigre.
Ouais.
Et ça ne l'a pas interpellé plus que ça, lui.
Ouais, mais c'est la polyvalence des Pères Noël. Ça, c'est, on en parle pas assez souvent. Merci beaucoup, Élise, en tout cas, d'avoir été avec nous. Anne-Marie est là aussi. Elle nous appelle de Brest, dans le Finistère, en Bretagne, évidemment. Ça va, Anne-Marie ?
Oui, bonjour. Ça va et vous ?
Ouais, il fait beau en Bretagne, Anne-Marie ?
Il fait très beau.
Bah,
il y a un grand soleil, mais il y a un tout petit peu de vent.
Bon, mais c'est pas grave, ça.
Le Père Noël arrive souvent trempé.
En submersion, là, quand
le Père Noël arrive souvent trempé en Bretagne, quand même. Hein.
Pas du
tout. En fait, chez moi, le Père Noël n'est jamais venu. Mes
ah
enfants
bon
n'ont jamais eu la visite du Père Noël parce que je n'ai jamais fait croire au Père Noël.
Ah bon ? Et comment vous avez fait ?
Eh bien, je n'ai pas fait, justement. C'est-à-dire que, en fait, je ne vois pas l'intérêt et je n'ai jamais vu l'intérêt de faire croire au Père Noël aux enfants. Je pense qu'en fin de compte, ça fait plus plaisir aux parents qu'aux enfants.
Ah ouais, c'est pas faux, ça.
Oui, c'est vrai.
Ah ouais.
Et voilà, j'ai une fille de 20 ans et un fils de 12 ans et demi. Ils s'en portent pas plus mal. Ils ne m'en veulent pas du tout. Je pense même que ma fille fera probablement pareil avec les siens. C'est-à-dire
c'est
que
ça.
Franchement, je ne vois pas l'intérêt de faire croire au Père Noël.
Bah, la magie, et puis
la
oui, dans la cour de récréation, c'est-à-dire que quand... Bah, alors, attendez, dans la cour de récréation, Anne-Marie, quand leurs petits copains leur disaient « Oh là là, j'espère que le Père Noël va m'apporter ceci ou cela », eux, ils disaient « Bon, le Père Noël n'existe pas, c'est ta mère et ton père ».
Non, ils ne disaient pas ça. Parce qu'ils sont gentils avec leurs petits camarades et qu'ils savent que certains y croient. Donc je pense qu'ils n'ont jamais voulu casser le
rêve,
on va dire. Mais le rêve, je ne sais même pas si c'est un rêve en fait, parce que partir d'un moment où on fait croire à un enfant que c'est comme ça, qu'à Noël, il y a le Père Noël qui vient, je pense que la part de rêve, elle est en fait pour les parents qui se disent oui, si ça existait, ce serait magique. Pour l'enfant, on lui dit c'est comme ça, je ne sais pas vraiment si ça le fait rêver.
Mais Marie, c'est comme quand on raconte des histoires à un enfant avec des dragons, avec des princesses, avec des royaumes.
Oui.
Évidemment, on sait bien que ça n'existe pas et l'enfant de lui-même, au fil de son cheminement, en grandissant, ce que je disais tout à l'heure, il apprend que tout ça n'existe pas. Donc c'est du ressort de la poésie plus qu'autre chose, en fait.
Non, mais même quand tu es adulte, que tu lis un livre ou tu vas au cinéma, tu sais bien que le personnage joue un personnage. C'est une histoire qui est inventée.
Mais en disant ça, vous partez du principe que l'enfant, dès le début, sait que c'est inventé.
Non.
Or, votre débat Mais non,
il croit aux princesses, l'enfant, il croit au château.
Mais Anne-Marie.
Et il y a encore des adultes qui croient au prince charmant, par exemple.
Mais bien sûr, j'en connais. Est-ce qu'on peut encore croire à l'amour? Voilà, tu vas voir un film d'amour, tu pleures, t'es content, tu crois, t'as cru.
Mais après, c'est pas ça, c'est que. En fait, ce que dit Anne-Marie, c'est que les enfants, on leur fait croire. En fait, on leur ment dès le départ, en fait. C'est-à-dire que, en fait, dire aux enfants, il y a le Père Noël, c'est-à-dire que tu leur mens dès le départ, tu acceptes de mentir à tes enfants. Mais cela dit, Anne-Marie, il y a quand même une petite stigmatisation, j'imagine, parce que souvent, il y a les maîtresses dans les classes de maternelle qui disent bah, tiens, on va faire la lettre au Père Noël, on va dessiner un Père Noël, on va.
Et c'est donc, une activité en fait. En plus,
forcément, vos enfants ont dû quand même se sentir un petit peu exclus de ça.
Mais non.
D'accord.
Non, mais à la rigueur, non, mais franchement, là encore, je pense que c'est. C'est nous, en tant qu'adultes, qui allons intellectualiser beaucoup plus que ça. Moi, mes enfants, je ne leur ai jamais fait croire. Ça ne leur a pas posé de problème. Et d'accord. Franchement, croyez-moi, ils ne sont pas malheureux et ils ne l'ont pas été.
Ça, je suis sûr.
Ils avaient leur cadeau à Noël, mais ils n'ont jamais cru au Père Noël.
Et la petite souris non plus?
Bah non plus.
Bah, elle existe pourtant.
Oui. Mais comment vous justifiez
elle me foutait une trouille bleue.
Ah bon, en plus, ça fait
j'avais la trouille qu'elle vienne sur mon oreiller, c'était affreux quoi. Mais merci Anne-Marie en tout cas. Alors vous voulez poser
mais comment vous justifiez aux enfants qu'ils ont un cadeau à Noël alors
Elle vient de le dire.
Non, oui, mais c'est ce que sont les parents. C'est-à-dire que
c'est Noël et donc t'as un cadeau.
Bah, c'est le cadeau de Noël.
Oui, mais Noël c'est une histoire. Oui, mais Anne-Marie, Noël c'est une histoire aussi, si on n'est pas croyant.
Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle.
Bon, très bien. Anne-Marie, merci en tout cas pour ce témoignage. Moi, je ne savais pas.
Elle l'a fait de manière très douce. C'est ça qui est. Voilà, elle leur a dit.
Un petit mot, c'est assez marrant quand même qu'on distingue le Père Noël des autres contes. C'est un classique de la psychanalyse. Ça s'appelle la psychanalyse des contes de fées. Et les enfants, en effet, aiment croire à l'ensemble des contes de fées. Les adultes sont là pour dire attention de façon très rationnelle, Père Noël.
Oui, en fait, ton père ne se déguise jamais en Aladdin, par exemple.
Parfois,
dans le salon.
Et on ne se déguise pas forcément.
Tu fais jamais Hansel et Gretel dans la cuisine.
Mais il y a plein de trucs qu'on fait qui sont une cérémonie familiale, on le fait pas.
Par contre, le petit poussé,
c'est une cérémonie familiale.
Non, mais d'accord, mais le Père Noël, en fait, c'est plus qu'un conte ou une légende, parce qu'il fait partie de ton quotidien.
Ouais.
On t'en parle tout le temps, etc.
Et les rentes de princesse, là, quand on file aux petites filles.
Enfin, personne ne te dit qu'Aladin, il existe, alors que le Père Noël, on te dit qu'il existe.
Aladin, si, mais oui. Oui, d'accord, mais les princesses aussi, on dit qu'elles existent. On dit que le prince charmant.
Il y en a des princesses.
Donc, le Père Noël est trop incarné. Donc, ça traumatiserait les enfants plus que les autres contes des fées.
Mais tu regardes un film avec des extraterrestres. Si le film est bon, tu crois aux extraterrestres?
Pas du tout. Vous croyez aux extraterrestres?
On devrait prendre E.T.
Il a cru que David Vincent, il existait. Non, mais c'est incroyable. Bon. Merci en tout cas, Anne-Marie, pour ce témoignage. Isabelle nous appelle de Panissière, dans la Loire. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Moi, je voulais dire que mes enfants ont tous cru au Père Noël. Hein.
Oui.
Et mon aîné, un jour, est revenu de la cour de l'école en me disant... maman, voilà, on m'a dit que le Père Noël n'existait pas. Et je dis, ah bon... Et je lui dis, ah bon, et tu veux savoir quoi? Elle me dit, c'est vrai qu'il n'existe pas. Je lui dis, alors tu veux la vraie vérité ou la fausse?
Ou la fausse vérité.
Alors elle m'a regardé un long moment et elle me fait, ben, la vraie. Et quand je lui ai dit, elle a été déçue, bichoune. Elle me dit, ben finalement, j'aurais préféré la fausse.
Elle avait quel âge, Isabelle?
Elle avait 3 ans.
Et aujourd'hui, elle a 22 ans, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Et elle n'est pas traumatisée?
Du tout.
Bon,
et
bah,
moi,
tout
je voulais dire que moi, j'ai un oncle qui s'est déguisé pendant longtemps en Père Noël et que j'ai adoré ça et que j'ai trouvé ça merveilleux que mon oncle se déguise en Père Noël.
Bon, bah, alors d'accord, Isabelle. Je ne dis rien sur les déguisements.
Voilà, il n'y a rien de mieux.
Je ne dis rien sur les déguisements.
J'ai aimé qu'un tonton fasse la même chose pour mes enfants, mais il ne voulait pas. Mais j'aurais bien aimé ça parce que moi, j'ai trouvé ça magique pour Noël.
Oui, mais tonton Fred est disponible, si vous voulez. Il peut aller chez vous déguiser en Père Noël.
Maintenant, mais c'est dommage.
Oui, mais Isabelle, quand vous avez su que c'était votre tonton justement qui faisait le Père Noël, ça vous n'êtes pas dit que toute la famille vous avait menti, quoi?
Du tout.
Ah bon?
Non, parce qu'en fait, il passait par la fenêtre et au bout d'un moment, on s'est dit, oh tiens, il a les chaussures de tonton. Ah oh, tiens, et c'est bizarre. Tiens, il n'y a pas Yves. Tiens, oh. Puis voilà.
Il a la barbe qui se décolle.
Oui, voilà.
Et c'est ça, petit à petit, tu commences à te poser des questions.
Il a le même nez tout rouge que tonton. Enfin, c'est pas mal.
Ça sent pas de soirée.
C'est mignon, le Père Noël.
Il a les mêmes baskets que tonton. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, effectivement, au fur et à mesure des années,
ce qui est bien, c'est que chacun a son histoire.
Oui,
chacun son anecdote sur la façon dont il a appris. C'est ça qui est génial.
Les féministes radicales n'ont pas encore pris position contre le Père Noël pour dire que c'est une exploitation de la Mère Noël, que c'est une. Bah oui, j'espère.
Ça va arriver, vous inquiétez
pas. Je fais un appel, Madame Rousseau, le Père Noël.
Moi, mon fils m'a demandé pourquoi le Père Noël cachait les cadeaux sous le lit, ce qui était quand même. Donc il a quand même fallu.
Ah oui, c'est bien qu'il a fouillé, lui.
Je vous avais pas très bien caché, je pense. Mais voilà. D'autres messages, Rémi.
J'ai ce message de Sophie qui nous dit bonjour à tous. Il y a des subterfuges, hein, des techniques propres à chacun. Nous avons dit à nos enfants que les parents donnaient l'argent au Père Noël pour qu'ils puissent offrir des cadeaux aux enfants. Ça permettait de leur donner une limite à la liste des cadeaux, mais aussi à les préparer, au fait que les parents sont derrière le mythe.
D'accord. Et est-ce qu'à votre avis, on est quand même dans une société de transparence, Thierry Moreau, est-ce que justement, à un moment, Noël va sortir, va rester en dehors de ça, ou est-ce qu'on va aussi dire, il faut tout dire à Noël, on ne doit pas mentir aux enfants ? Vous savez, vous avez des pédopsychiatres aujourd'hui qui prônent l'éducation bienveillante, etc. Dire, l'enfant doit être un ami. Oui, donc
Je pense qu'il y aura toujours un peu la magie autour de Noël, parce que d'abord, c'est aussi une fête très commerciale, donc des Pères Noël, vous en avez dans tous les centres commerciaux. Donc la magie, elle va continuer. Je pense qu'autant sur des événements plus douloureux, le rapport entre les parents et les enfants, pour ne pas leur mentir, c'est quelque chose de compliqué. Il faut choisir les mots, il faut choisir le bon moment. Et là, le pédopsychiatre peut servir à quelque chose.
Annoncer des morts.
Pour annoncer la fête. Annoncer la fête. Le fait que le Père Noël n'existe pas, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'un pédopsychiatre. Gardons la magie.
L'enfant chez le psy, donc ça coûte 75 euros pour aller annoncer que le Père Noël...
Voilà, gardons la magie.
Bah, du coup, il y aura
et gardez votre argent, surtout.
Gardez votre argent, et puis ça se fera naturellement. Soit c'est vous qui allez faire une bêtise, soit il va vous griller, soit il la prendra dans un cours de récréation. Et c'est très bien comme ça. Encore une fois, c'est un truc initiatique qui nous fait passer, fait quitter un peu l'enfance, et c'est plutôt pas mal.
Et d'ailleurs, en parlant de Père Noël, les cadeaux pour les enfants, 24 au soir ou 25 au matin, Rémi, vous avez deux filles.
Question. Moi, c'est 24 au soir.
Ouais.
24 moi, c'était 25 au matin, et quand on a su que le Père Noël n'existait pas, c'était 24 au soir. Donc, en fait...
Nous, c'était 24 au soir. Et encore aujourd'hui, on se fait des cadeaux à Noël, c'est 24 au soir.
Nous, on est le 25, mais j'aimerais bien que ce soit le 24 à minuit, parce que je trouve ça sympathique.
Bah oui.
Et pourquoi vous faites le 25, alors?
Je sais pas, c'est mes beaux-parents.
Vous faites Noël chez les beaux-parents?
Non, ils viennent chez moi. Mais bienvenue.
Attendez, je vais me faire tuer si jamais...
On a senti la sincérité dans le...
C'est tout le monde cette année, et c'est très bien.
Ah,
et on mettra mon cousin Marius en face de belle-maman.
Voilà.
Et
il est puni.
Parce que vous,
non,
vous
voulez... pas du tout, c'est que j'aime bien.
Parce que vous, voulez pas être devant votre belle-mère?
Si, je l'aime bien, moi.
Oui, vous n'allez pas dire l'inverse.
Si, je l'adore. Titou, je vous adore. Mais c'est vrai.
Il s'appelle vraiment Titou, c'est un pseudo.
C'est son surnom.
Oui, je l'avais bien senti comme
prénom,
ça. Bah, donnez son vrai prénom.
Ah, Marie-Claude.
Ah oui.
Ouais, mais Titou, c'est bien.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire.
Marie-Claude, c'est bien aussi.
Bah ouais. Titou, c'est pas mal.
Bah, Titou, faut l'inviter à la corrida avec moi aussi. Là.
Oui, bon, d'accord. Bon, Thierry Moreau.
24 au soir.
Ah oui.
Oui, 24 au soir. Parce que on était dans une famille où on allait à la messe de minuit à une époque. Et puis on retourne de la messe de minuit. Pendant ce temps-là, le plus athée de la famille faisait les tas de cadeaux. Et au retour, il y avait ça. Et donc, on mangeait très tard. Mais c'était le 24 au soir.
Toi, 25 au matin, donc.
Bah, 25 au matin, puis après, quand le Père Noël, feu le Père Noël, 24 au soir, parce que voilà, c'était plus simple et on faisait la grasse mat le lendemain. Esmeralda est avec nous, elle nous appelle de Chauffaillé, dans les Hautes-Alpes. Bonjour Esmeralda.
Et bonjour Estelle, bonjour l'équipe.
Bonjour Esmeralda. Bonjour.
Esmeralda, on fait comment avec ses enfants?
Eh bien, on fait comme on s'adapte à l'enfant, et puis surtout, ben, si c'est un doux rêveur, eh ben, on le laisse rêver.
Bon, voilà. Oui, mais jusqu'à quel âge?
Ah, ben l'âge qu'il faut, de toute façon, moi ça s'est fait. Tout simplement, je leur ai fait voir un dessin animé, ça s'appelle le Pôle Express. Et dans le dessin animé, on leur explique que tant que ce sont des doux rêveurs, eh ben, ils croient au Père Noël. Et le jour où ils n'entendent plus le gros lot, donc le gros lot du Père Noël, eh ben, ce jour-là, c'est qu'ils sont adultes. Et donc, tout simplement, ils ont eu chacun un gros lot, et puis un jour, ils n'entendaient plus.
Vers quel âge, Esmeralda?
Ah ben, ça a dépendu un petit peu de chacun d'entre eux, parce que c'est pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes tempéraments, mais on va dire 10 ans pour Horatio, et puis 7-8 ans pour Mathias.
Ah oui, donc ils ont cru assez tard,
ans,
donc voilà, donc c'était des doux rêveurs.
Et oui.
Voilà, vous avez eu cette chance, Esmeralda. Ça a été dur pour eux quand vous leur avez annoncé la vérité?
Non, parce que j'ai jamais dit la vérité, ça s'est fait tout seul. Ils ont compris qu'ils étaient adultes, qu'ils étaient grands.
Ça, c'est bien aussi de dire aux enfants, bah voilà, ça y est, en fait, tu deviens un grand.
Exactement.
Et je trouve que c'est assez joli.
Le rite de passage.
C'est un passage,
c'est ce que tu disais, c'est vraiment le terme.
Mais Thierry, qui connaît bien le sujet, nous disait tout à l'heure que c'était surtout dans les cours de récréation. Moi, j'avais l'impression aussi que c'était souvent les aînés qui disaient ça aux petits.
Oui,
et ça les traumatise.
On les embêtait quand tu te disputes avec ton frère.
Le Père Noël n'existe pas.
Moi, j'ai pas eu
ce que j'ai vécu. Oui, mais moi, c'est mes enfants, c'est arrivé comme ça. Il y en a un qui arrivait tout fier en disant je l'ai dit au petit,
on n'avait rien à faire. 20 ans de psychanalyse derrière.
Mais voilà, ah, non, ils n'ont pas encore 20 ans, mais ça va durer 40 ans, c'est sûr, là, les pauvres.
Merci Esmeralda, en tout cas, d'avoir été avec nous sur RMC Story. Benjamin Muller est au téléphone. Benjamin Muller, qui est avec nous, bien sûr, notre chroniqueur dans Estelle Midi, qui travaille aussi sur les maternelles.
Oui,
une émission pour les enfants et qui écrit des livres pour les enfants. Bonjour Benjamin.
Bonjour Estelle, ça m'étonne que vous ne m'ayez pas appelé sur la corrida, tiens.
Oui, mais on a choisi ce sujet-là, on s'est dit, tiens.
C'est bizarre, hein.
Mais oui, c'est bizarre.
C'est bizarre.
Benjamin Muller, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Avec le Père Noël?
Évidemment, on ne leur dit pas la vérité. Enfin, je veux dire, quand on est un des enfants, il faut continuer de considérer qu'on n'est que des enfants. Si dès le début, on doit leur dire la vérité, surtout, puis les faire rêver, les considérer comme des adultes, alors le charme de la jeunesse, il n'y en a plus. Et dans ce cas, on va plus loin. On
oui, mais quand l'enfant vient te poser la question en te disant on m'a dit dans la cour de récréation est-ce que c'est vrai? Comment on fait?
Déjà que le Père Noël est un mensonge, tu ne vas pas en plus leur mentir une deuxième fois.
Alors en fait, je pense qu'il ne faut pas mentir, mais il y a une très bonne astuce que je donne à tous les parents.
Vas-y.
Vous répondez, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est toujours la meilleure. C'est comme quand ils viennent en vous demandant à 6 ans comment on fait les bébés. Tu réponds, si t'es pas à l'aise avec le truc, tu réponds, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Déjà, ça te laisse un petit peu de temps.
Oui, d'accord. Je l'entends. Mais quand un gamin te dit, quand tu dis à ton gamin, qu'est-ce que tu penses, toi, le Père Noël, à ton avis, il existe? Si le gamin, il dit, oui, je pense qu'il existe, tu dis, bah, t'as raison.
Bah, en fait, s'il dit, oui, je pense qu'il existe, en fait, souvent, quand il commence à vous poser la question, à vous dire, il y a des copains qui disent qu'il n'existe pas, au fond d'eux, ils savent. Et si tu lui réponds, mais qu'est-ce que t'en penses toi? Et qu'il dit, ben moi je pense qu'il existe, ça veut dire qu'il va encore y croire un tout petit peu, et ce serait dommage de lui briser le rêve.
Oui. Donc tu continues de lui mentir.
Ben moi en fait, sur mes 3 enfants, il y en a 2 qui ça y est n'y croient plus, et en fait à chaque fois c'est venu d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils en parlent un petit peu, ils l'évoquent, alors moi je gagnais à chaque fois 1 mois ou 2 en disant qu'est-ce que t'en penses, puis un jour et les 2 sont venus en me disant, bon ça y est j'ai compris que c'était vous, etc. Et moi je trouve qu'ils sont assez contents d'être mis dans la confidence. Au moment où ça y est, ils n'y croient plus. C'est pour ça que c'est important que ce ne soit pas trop tôt. Et contrairement à ce que j'ai entendu juste avant, nous, notre 3e qui y croit encore, bah, du coup, ils sont tout contents de partager ce secret avec nous par rapport
et de lui mentir.
Ils sont gentils, je le prends, moi, cela.
Le mensonge, c'est quand même une technique d'éducation, je veux dire, très adaptée que je recommande. Et
Mais dans tous les domaines ou juste avec les enfants?
Avec les enfants. Non, essentiellement avec les enfants. C'est quoi le meilleur conseil que je peux donner? Non, mais en vrai, je comprends qu'il y a des gens qui ont l'impression de trahir un petit peu leurs enfants, etc. Mais moi, je pense qu'il faut se rappeler nous-mêmes quand on était enfant, le jour où on l'a appris. Enfin, je pense qu'on n'est pas nombreux à s'être senti trahi et avoir eu envie de porter plainte contre nos parents. Donc, ça fait partie quand même de la magie. Ce serait un petit peu dommage de les priver de ça, je trouve.
Ok, alors je garde en tout cas votre conseil, Benjamin, mentir. Donc
alors, il
voilà.
Y a le mensonge et la manipulation, qui sont les 2 grands piliers de l'éducation.
Bah, écoutez, merci.
Au moins, c'est franc.
Voilà, exactement. Mais merci, Benjamin, puis on vous retrouve très vite, évidemment, dans Estelle Midi. On va terminer avec Isabelle, qui nous appelle de Riantec, dans le Morbihan. Il y a un magnifique phare à Riantec. Bonjour, Isabelle.
Bonjour, Estelle.
Il fait beau dans le Morbihan?
Alors aujourd'hui, on a énormément de vent.
Et oui, mais vous êtes
en coup de tabac.
Vous êtes en alerte vague submersion en plus aujourd'hui.
Oui. Mais c'est beau, la mer en colère, c'est sympa.
Oui, c'est beau, mais c'est dangereux.
Oui, fille qui est toujours
hyper premier degré. Attention quand même. Ouais. Isabelle, vous avez fait comment avec vos enfants?
Alors moi, j'ai mon fils aîné qui a 42 ans aujourd'hui, vous voyez. Okay. Et donc quand
je compte
lui
annoncer cette année.
Non, pardon, je rigole. Je crois qu'il l'a trouvé la solution. En fait, il était tout petit quand il voyait la botte noire du Père Noël dans la nuit noire. J'ai trouvé ça magique. Et un beau jour à 8 ans, il m'a posé la question. Il me dit, est-ce que tu penses que le Père Noël existe? Et je lui ai posé la question, et toi, qu'est-ce que tu en penses?
Ah ben, comme Benjamin Muller, incroyable!
Et il m'a répondu, je vais réfléchir. J'ai dit, bon, ben soit. Bon. Et après Noël, quand Noël est passé, de là, il est venu me voir en me disant, je pense que tu dois beaucoup l'aider, le Père Noël, et je crois que je suis assez grand maintenant. Donc, j'avais trouvé ça beau comme tout. Et en fait, c'est lui qui a décidé, c'est pas moi, c'est lui qui a décidé de voir la vérité. Donc, c'est un mensonge, sans être un mensonge, parce qu'il a trouvé la solution. À mon avis,
Non, mais c'est parfait.
Et ben, voilà. Mais merci pour ce témoignage, Isabelle, c'était bien. Tout joli. Voilà
merci.
La réaction
et génial
de
votre émission, vous êtes super. Je vous adore tous.
Oh, merci. Bah c'est gentil. Bah merci Isabelle, merci beaucoup. En tout cas, Isabelle, on vous a posé la question, en tout cas sur le compte Twitter d'Estelle Midi, bah, faut-il dire la vérité aux enfants concernant le Père Noël ?
Mais non, faut pas leur dire. Faut pas leur dire pour 61% des personnes qui se sont prononcées sur nos réseaux sociaux.
Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et puis bien sûr, Élise Dangean, RMC s'engage pour vous. Élise qui tentera d'aider Éline. C'est un auditeur qui est en arrêt de travail et qui n'arrive pas à se faire indemniser. A tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h, Estelle Midi. RMC, midi 15h, Estelle Midi. Estelle Denis.
14h25 sur RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi. On va tout de suite accueillir Élise Dangean. RMC s'engage pour vous.
RMC Estelle Midi. RMC s'engage pour vous.
Et Élise, vous avez été contactée à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr par Éline. Éline, c'est un auditeur qui est en arrêt de travail, mais qui ne touche aucune indemnité.
Alors, on va juste repartir sur le bon prénom, Élin, mais c'est pas votre faute, vu comme ça s'écrit, c'est confusant. Et
d'accord.
C'est un tout jeune papa, il vit avec sa compagne et leur bébé de 7 mois près de Montpellier, et les fins de mois sont de plus en plus compliquées. Employé agricole en CDD, Élin a subi un accident de travail le 22 août dernier, une lombalgie suite au port d'une charge très lourde. Les douleurs étaient telles que son arrêt a duré 3 mois et il n'a toujours pas touché un centime de ses indemnités maladie, soit près de 2000 euros.
On privilégie avant tout notre enfant, évidemment. Après, nous, on se restreint beaucoup pour l'enfant, mais la situation est vraiment critique, quoi. Pour manger, pour se déplacer en voiture, pour mettre du gasoil. Alors, à 30 ans, enfin, j'estime ne plus avoir besoin de ma maman, surtout pour acheter les couches et le lait de mon fils, quoi, ni même ses habits. Donc, c'est gênant comme situation. Dès le réveil, la première chose à quoi je pense, c'est regarder ma banque si j'ai un virement. Ça ronge.
L'arrêt maladie d'Élin s'est terminé hier, mais il n'a pas pu reprendre le travail car entre-temps, son CDD a lui aussi pris fin et l'entreprise ne l'a pas renouvelé.
Donc c'est une catastrophe pour lui, évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe, Élise? Pourquoi est-ce que Élin ne touche pas ses indemnités?
Eh bien, il dépend de la Sécurité sociale agricole, la MSA. Il a transmis à l'organisme tous les documents nécessaires, mais à ce jour, il n'a reçu qu'un virement de 124 euros. Pourquoi?
Ah oui, c'est pas lourd.
Mystère. Lorsqu'il a relancé la MSA, la réponse qu'il a obtenue tient en 3 mots. Délai de traitement, sauf qu'en attendant, sa situation financière est devenue très critique. Ce mois-ci, il n'a pas pu payer son loyer, pas plus que son crédit auto. Sa banque a donc transmis le dossier à un huissier.
Donc il est dans une situation absolument catastrophique. Est-ce que vous avez pu aider Élin, Élise?
Absolument. La MSA est revenue vers nous hier. La situation d'Élin est en cours de résolution. Il va percevoir la totalité de ses indemnités dans les jours à venir. L'organisme nous a expliqué le problème. Notre auditeur relève à la fois du régime général et de la MSA.
D'accord.
C'est souvent le cas lorsqu'on enchaîne les CDD dans différents secteurs d'activité et il y a eu une mauvaise circulation des informations, nous dit-on. Grâce à nous, la MSA a en tout cas identifié comment résoudre ce problème pour Élin, mais aussi pour tous les adhérents qui pourraient être concernés à l'avenir.
Donc gros ouf de soulagement, bravo Élise, pour avoir réussi à résoudre ce cas et le cas d'autres personnes dans la situation d'Élin. Et puis bravo pour tout ce que vous faites, parce qu'on a quand même un taux de résolution dans cette émission qui est absolument remarquable. Donc merci Élise, merci à Amélie Rosic et toutes ces équipes. On parle de quoi demain, Élise?
Alors demain, votre sujet préféré,
la SNCF.
Bah, bien sûr. Bien sûr,
évidemment.
La
renommée. Une passion d'identité à la SNCF.
Voilà, j'adore. J'adore. J'ai hâte d'être à demain. Merci beaucoup, Élise Dangean. Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater. Aujourd'hui, on parlera des tensions extrêmes à Mayotte, de la hausse du prix des jouets. Alors, c'est pas une petite hausse. Hein.
Ouais.
Non, mais c'est une énorme hausse.
Ça fait mal.
C'est un boom, on va dire. Rémi, et puis, eh bien, un mouvement social chez GRDF.
Ça tombe bien en plein hiver. Il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus d'eau chaude.
Voilà, à cause d'une grève. Ça aussi, on va en parler longuement dans les immanquables. À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, Estelle Midi. RMC, midi 15h, Estelle Midi. Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi et dans cette dernière partie, on vous donne toutes les infos qu'il ne fallait surtout pas rater aujourd'hui. Voici les immanquables.
RMC, Estelle Midi. Les immanquables.
Et Rémi, on va tout de suite démarrer les immanquables avec les tensions du jour.
Tension extrême à Mayotte, le plus jeune, le plus récent des départements français situés dans l'océan Indien. Les violences s'y succèdent depuis une dizaine de jours. Affrontements entre bandes, émeutes qui débordent jusqu'à bloquer les axes routiers. L'État a même décidé l'envoi d'une unité du RAID pour tenter de ramener l'ordre sur place face à une violence inouïe. Tout est parti d'un règlement de compte entre bandes rivales le 12 novembre dernier. Les jeunes d'un quartier nord, Kaweni, accusent ceux du quartier sud, Doujani, d'avoir assassiné l'un des leurs à coups de machette. Depuis, les incidents se multiplient. Un automobiliste aurait été poignardé à mort et un collégien a eu la main tranchée à coups de machette lors de l'attaque de son bus scolaire. On parle bien d'un département français.
C'est dramatique hein, ce qui se passe là-bas, Thierry Moreau.
Il faut, je pense qu'une brigade du RAID ne suffira pas. Il faut absolument que l'ordre soit maintenu parce que enfin, toute agression est terrible, mais qu'un collégien ait eu la main coupée parce que son bus a été attaqué, enfin, dans quel monde on vit, quoi. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Je pense qu'il faut réagir très, très vite pour pas que ça continue et que ça s'installe, qu'il y ait une atmosphère d'insurrection qui s'installe de manière durable.
Elle est déjà là, hein, cette
atmosphère. Oui, mais donc il faut agir massivement et très, très vite.
Alors, l'État envoie une unité du RAID. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin? Parce qu'on se dit, est-ce que c'est une unité qui va réussir à régler toutes ces violences? Non, ça paraît étonnant.
C'est l'armée pour protéger ce territoire français. Et voilà ce qui arrive quand il y a une immigration incontrôlée. C'est le cas de Mayotte. Enfin, ce sont nos compagnons.
Il y a une conjugaison. Il y a misère grave difficulté économique et immigration incontrôlée.
Et vous avez beaucoup de gens des Comores qui viennent. Et absolument, notamment des femmes pour accoucher et pour avoir la nationalité française.
Etc. Donc, on n'est pas un fasciste et on ne peut pas accuser nos compatriotes de Mayotte d'être des fascistes. Ils veulent simplement essayer de vivre en paix dans leur pays. Et il y a une vague, des vagues migratoires terribles, et avec des gens pas forcément toujours très bien intentionnés. Et on en est là. Donc, oui, solidarité avec nos compatriotes et puis l'armée, quoi, parce qu'à un moment. On ne peut pas faire autrement, quoi. Il faut protéger les gens, quoi.
Enfin, envoyer l'armée dans un département français,
mais
à un moment, la loi est énorme.
Enfin, voilà, c'est quand même.
Je pense qu'il faut envoyer un signal fort, justement. Vous semblez dire que c'est quelque chose de très fort et donc disproportionné, mais pense que justement, il faut envoyer ce message fort et disproportionné.
Et est-ce qu'on va traiter nos compatriotes de Mayotte de fascistes parce qu'ils dénoncent cette immigration massive?
Oui, non, mais
tout le monde est sur le constat.
Ouais, Mayotte, c'est une situation, et vous l'avez dit, il y a aussi une situation d'extrême pauvreté. Ouais,
bien sûr, il y a beaucoup de facteurs.
C'est pas juste l'immigration.
Il y a le chômage.
Il y a 5 ans, je suis allé à Mayotte pour faire une étude sur les bidonvilles de Mayotte, les bangas en maorais. La situation était déjà compliquée, mais on pouvait sortir le soir et il n'y avait absolument pas ce volume et cette intensité de la violence. Si je dis ça, c'est pour dire que la situation aujourd'hui est catastrophique et qu'elle se dégrade extrêmement rapidement. Ceci raconté, ça ne met pas du bonheur dans cette affaire parce que je ne sais absolument pas comment on peut s'en sortir. Et les coups de menton pour dire... gendarmerie, GIGN, armée, etc. Les pouvoirs publics, ils ont plusieurs fois fait. Hein. Et j'en bafouille parce que sur Mayotte, que je connais un tout petit peu, je ne sais absolument pas ce que l'on peut faire. Alors les gens peuvent se sentir abandonnés, les gens, à juste titre, submergés en effet par l'immigration de leurs anciens compatriotes, et c'est très compliqué les relations avec les Comores. Mais la France, qui a départementalisé il y a une dizaine d'années ce territoire, est face à un dossier, pardon de le dire, le mot n'est pas bien, pas joli, mais indémerdable.
Non, mais je suis assez d'accord avec vous. Et tout le monde a l'air de dire qu'effectivement, ça va être très, très, très compliqué à gérer. On va passer à l'accord du jour.
La gauche et la majorité se sont accordés aujourd'hui sur une formulation commune pour l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. C'est en cours d'examen à l'Assemblée. Hein. Le texte propose la phrase suivante à insérer à l'article 66 de la Constitution. La loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse. Un changement dans le texte qui vise à lever les réticences de certains députés.
Ah, donc l'IVG inscrit dans la Constitution.
C'est en cours.
C'est en cours.
Ça devrait passer.
Ça va passer. C'est une bonne nouvelle, ça, Thierry Moreau.
Oui, c'est une bonne nouvelle. Ça relève quand même du symbole parce qu'il n'y avait pas aujourd'hui de danger concernant le droit à l'IVG en France.
Mais vous pouvez dire ça aussi.
Je pense que quelquefois, les symboles sont importants et je pense que c'est plutôt bien qu'on inscrive ça dans la Constitution parce qu'au moins, on est à l'abri de toute velléité de changement politique qui pourrait un jour décider, comme on peut le voir dans d'autres pays, de changer les choses. Mais on n'en est pas encore là en France, très clairement, donc ça relève du symbole.
Pardon,
mais c'est bien.
Changement politique, mais il n'y a aucun parti aujourd'hui politique en France.
Aujourd'hui.
aujourd'hui.
Oui, mais peut y en avoir un demain.
Tu viens de dire aujourd'hui.
Non, mais je veux dire, aucun parti aujourd'hui de ceux représentés à l'Assemblée ou de ceux qui représentent un minimum de personnes qui est pour la remise en
cause. Je suis pas sûr que chez Reconquête, par exemple, il y ait pas des gens qui soient pour sa remise en cause du droit.
Oui, ils ont zéro député.
Oui, d'accord.
Pour la remise en cause du droit de l'IVG.
À l'instant T, oui.
Qui pour moi, de toute façon, va être très clair, le droit à l'avortement n'est pas une question morale, c'est une question de santé publique. Donc voilà, la question se pose même pas. Je veux dire,
c'est il y a même pas de question.
Il y a même pas de question. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a pas de question. Et mais je trouve ça très bien le symbole. Après,
aux États-Unis,
États-Unis,
mais non, mais d'accord, ça. Alors parfois ça t'arrange de dire.
Nous ne sommes pas les États-Unis encore.
Les États-Unis, je pense, est quand même un grand pays et il se trouve que là-bas, cette loi, elle est remise en question. Ouais. Et vous avez des femmes qui sont obligées de changer d'état.
Je ne sais pas ce qui se passera dans 30 ans chez nous.
Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Et là, au rythme où vont les choses, il suffit de regarder comment ça se passe chez nos voisins. T'es jamais à l'abri qu'il y ait un parti qui arrive et qui soit contre le droit à l'avortement.
Mais les Français sont immensément majoritaire pour le droit à l'avortement. Donc, voilà, c'est. Mais le symbole est bien sûr.
Sur ce sujet précis, je ne vois pas en quoi l'inscription dans la Constitution abrite, dans 10, 15, 20, 30 ans, la possibilité pour une nouvelle formation politique au gouvernement de revenir.
Ça compliquera un tout petit peu
cette affaire. Mais comme c'est compliqué de changer la Constitution, si c'est vraiment leur dada, ils la changeront. Je précise que la peine de mort a été abolie en 1981 ou 2, je ne sais plus exactement. Il a fallu attendre 2007 pour que ceci soit inscrit dans la Constitution. Mais ce n'est pas une protection ad vitam aeternam. Si un parti politique qui n'existe pas aujourd'hui vient en force à l'Assemblée avec ça dans son programme, il se fera un plaisir de redétricoter la Constitution. Donc, je vois le symbole. Oui. Je ne crois pas que ce soit la protection définitive contre
Parfois, les symboles sont forts.
Oui, mais il y a un truc qui me gêne, c'est qu'on a c'est venu suite aux États-Unis.
Ah oui,
c'est qu'on a réagi à quelque chose qui s'est passé dans un pays qui n'a absolument rien à voir avec nous. C'est simplement le seul truc qui me gêne. On n'a pas à réagir en France aux folies des Américains.
La Constitution américaine, qui est bien plus protectrice et bien moins détricotée qu'en France ou tricoté, n'a pas l'IVG ne l'a jamais eu l'IVG dans sa constitution, dans sa rédaction.
La grève du jour.
Ouais, c'est l'activité du distributeur de gaz, GRDF, qui est touchée par un mouvement social. Donc l'activité est fortement perturbée depuis plusieurs jours, principalement à Paris et en Ile-de-France. Conséquence, certains foyers sont privés de chauffage et d'eau chaude. Des agents du groupe sont en grève à l'appel du premier syndicat de l'entreprise, la CGT, qui rejette un accord sur les salaires, accord pourtant signé le 18 novembre par les trois autres organisations syndicales représentatives, la CFDT, la CFE Énergie et FO.
D'accord, donc à cause de la CGT.
La seule CGT, alors qu'il y a eu un accord majoritaire.
D'eau chauffage et
ça rappelle un conflit.
Absolument honteux. Je trouve ça absolument honteux. On peut dire tout ce qu'on veut du droit de grève, il ne s'agit pas de le remettre en cause.
Mais
à partir du moment où il y a un accord majoritaire qui est signé par trois syndicats, que des gens se permettent leur acte de grève, parce qu'ils peuvent se déclarer en grève sans couper les flux, il y a des gens qui doivent être parmi les gens qui n'ont pas de chauffage dans la précarité, qui ne peuvent pas forcément s'acheter un petit chauffage d'appoint. C'est honteux. Je trouve ça tout simplement honteux.
Non, mais surtout que là, si vous n'avez pas de train, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une grève de la SNCF ou de la RATP, vous pouvez vous en sortir. Mais là,
sans chauffage et sans eau chaude,
certainement des personnes âgées, des personnes qui sont malades, des personnes qui sont en traitement, et vous vous retrouvez sans chauffage.
C'est la mise en danger de la vie d'autrui.
Ouais. C'est hallucinant. Et puis même, si vous êtes malade et que vous vous retrouvez aujourd'hui avec 3 degrés...
S'il y a une petite mamie de 92 ans qui se retrouve à l'hôpital, c'est la mise en danger de la vie d'autrui.
Voilà, c'est hallucinant quand même, Julien Damon.
Oui, mais à chaque fois, on a ce débat sur les grèves, et à chaque fois, vous êtes nombreux à dire « Ah oui, mais il ne faut pas remettre en cause le droit de grève. » Moi, je pense qu'il faut frontalement remettre en cause le droit de grève dans ces circonstances.
Si ça met en danger la vie des gens.
C'est le cas extrêmement clairement ici. Donc, je ne vois pas pourquoi les ultras de la CGT, puisque c'est le cas,
je suis pas d'accord avec toi, Julien,
sur nos existences.
Ce mouvement de grève n'est pas justifié puisqu'il y a un accord majoritaire au sein de GRDF.
Oui, mais ça n'empêche pas qu'ils ont quand même le droit de grève.
Absolument.
Moi, je pense qu'ils ne devraient pas avoir le droit de grève.
C'est ce qui s'est passé chez Total.
Oui, mais Total, encore une fois.
La CGT a poursuivi le mouvement alors qu'il y avait un accord.
Ce sont les ultras de la CGT. C'est pas
non, mais là, couper quand même le chauffage et l'eau chaude,
J'aimerais bien qu'on leur coupe le chauffage et l'eau chaude à eux-mêmes.
Vous faites ça en août. C'est
déjà, ils ne la payent pas. Et...
mais qu'est-ce qu'on fait ? On interdit les coupures d'eau chaude et de chauffage.
Mais un service minimum, ce qui fait que un service minimum, alors peut-être que ça assure par moins de personnes.
Le service minimum, c'est chauffage à 19 et
au pied. C'est un service vital.
C'est pour ça.
C'est vital.
Non, mais je suis désolé. Quand on a la chance d'être dans une entreprise de service public, avec un actionnaire de l'État, et ben on ne devrait pas avoir le droit de grève, c'est tout.
Ah oui, carrément.
Bah oui, non, bien sûr.
On enlève le droit de grève.
Ah bah, c'est pour les. Bah,
donc, mais dans certains secteurs.
Dans certains secteurs où c'est la vie des gens qui est en jeu.
Oui, bon, alors après, bon, ça n'a jamais tué personne de prendre une douche froide, on est d'accord.
Oui, mais si, pas avoir de chauffage, si.
Bah,
si.
Pas avoir de chauffage, oui, évidemment, bah, ça peut tomber dans le
chauffage. Une pneumonie, je sais pas quoi, enfin. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Quelqu'un déjà très fragilisé par une maladie et qui peut prendre choper une grippe froide.
Ah ben c'est sûr que s'il y a le moindre problème dans l'un des appartements dont le chauffage et l'eau chaude est coupé et qu'il y a effectivement une personne qui décède ou quoi, oui, c'est sûr que là, ça, on va en entendre parler.
Il y aura beaucoup de boomerangs.
L'enquête du jour, Rémi.
C'est une info du Parisien aujourd'hui en France. Une enquête judiciaire est ouverte pour financement illégal de la campagne d'Emmanuel Macron. En 2017, trois juges d'instruction enquêtent sur des soupçons de financement illégal de cette campagne. En toile de fond, les relations entre le chef de l'État et son entourage avec le cabinet américain McKinsey et les conditions d'attribution de contrat public.
Et c'est le Parisien qui vient tout juste là de sortir l'information. Ça fait désordre, Thierry Moreau ?
Ça fait des heures, en même temps, comme il est réélu, il ne s'est jamais rien passé. Enfin, personne n'a jamais été condamné vraiment à quelque chose de grave pour financement illégal de campagne. On peut trouver ça dommage, mais dans l'histoire de la Ve République, et même dans les exemples les plus récents, il n'y a pas eu. Il faut laisser l'enquête se faire. Mais évidemment, si c'est vrai, c'est pas acceptable. On ne peut pas favoriser des marchés publics pour financer une campagne. Donc, j'espère qu'il y aura sanction. Mais comme aujourd'hui, il est élu pour la deuxième fois, qu'il ne se représentera pas... Il n'y a pas d'enjeu.
Excusez-moi, on parlait de symbole.
Ah oui, c'est un mauvais symbole.
Il y a quelques instants, le symbole, excusez-moi, il n'est pas bon. C'est pas comme s'il était dans une bonne période, là, Emmanuel Macron. Financement.
Enfin, sa cote de popularité augmente ces derniers temps. Donc,
Oui, mais enfin, bon, c'est pas. Vous voyez, vous ne connaissez pas de gens qui se plaignent en ce moment?
Si, bien sûr que si.
Parce qu'on ne peut pas dire que la France soit dans un état d'allégresse incroyable. Et là, quand même, vous jetez l'opprobre quelque part sur l'élection du président de la République. Enfin, moi, je suis désolée, mais. Je trouve que c'est quand même gênant. Enfin, on passe notre temps à parler des politiques qui sont mis en examen, des enquêtes sur les uns et les autres. Là, c'est juste le président de la République, quand même, Julien Damon.
Je crois que ça a déjà... Enfin, je ne connais pas bien tous ces dossiers, mais ça a déjà été le cas pour un précédent président de la République. C'est Nicolas Sarkozy.
Oui, mais
il n'a pas été réélu, mais en l'espèce, là, on parle de la première élection de M. Macron et de la seule élection de M. Nicolas Sarkozy. Non, moi, ce qui me marque là-dessus, je viens juste de l'apprendre, je ne connais pas le dossier, c'est le cabinet McKinsey qui, lui, a fait les choux gras récemment.
Qui s'est gavé avec l'agent des contribuables.
En tout cas, c'est l'État qui lui a passé des contrats dans des conditions dont je ne sais pas si elles étaient parfaitement légales, etc., de mise en concurrence. Il se trouve que là aussi, ça semble problématique. Ce qui est plus problématique encore, c'est que nombre de consultants de haut niveau et de haut rang de McKinsey sont dans l'entourage du président avec des fonctions relativement importantes. Donc oui, pour dire un mot sur le contexte, et c'est ça le seul mot que l'on peut dire, ça aggrave les tensions sociales, la manière dont on se regarde en France, ça nourrit la méfiance, peut-être à juste titre un petit peu.
Et surtout quand on a un président qui après va dire que l'abondance est terminée, qu'il faut serrer la ceinture, quoi.
Bah, c'est ça.
Voilà. Oui. Donc quand on a trop dépensé ou qu'on a illégalement, alors supposé, financé de manière illégale sa campagne et qu'en plus c'est une société, on le sait, qui s'est gavée. Notamment en conseil, société de conseil, quoi. Comme si en France, on n'avait pas suffisamment d'énarques ultra bien formés pour penser. Non, on prend des penseurs ailleurs.
Mais ils sont formés pour
On forme des gens et on en conseille à d'autres.
Il y a sans doute eu des abus de. En fait, il y a deux choses dans ce dossier. S'il y a financement illégal de campagne, il faut qu'il y ait évidemment instruction, condamnation, etc. Pour le retour au cabinet de conseil, depuis toujours, sous la Ve République, on s'adresse à des cabinets de conseil. Il y a eu une recrudescence du recours au cabinet de conseil.
Américain, c'est-à-dire sur des sujets stratégiques de notre pays.
Après, sur certains dossiers, avoir un œil extérieur d'un cabinet de conseil n'est pas vraiment une mauvaise chose.
Il ne
faut juste pas en abuser.
Et peut-être pas américain quand on compare.
Il ne faut juste pas en abuser. Ça dépend sur quelle question.
Parce que qui te dit que McKinsey ne refile pas des infos au gouvernement américain?
Vous avez trop regardé le bureau des légendes.
Une critique a été prononcée en ce sens. Peut-être encore plus légitime, quand le général De Villiers, c'est-à-dire l'ancien chef d'état-major des forces françaises, a été recruté par un cabinet de conseil américain, sorti de ses fonctions éminentes, ces questions géostratégiques se posent, vrai. Alors McKinsey, j'en dirais en dire un mot quand même aussi, pour dire qu'il faut arrêter de montrer les cabinets de conseil en général pour dire « regardez-moi, ça, c'est du pognon et compagnie ». C'est des gens extrêmement brillants. Moi, ma position, c'est qu'il est plus difficile d'entrer chez McKinsey que d'entrer au CNRS.
Et ça peut être utile, mais faut simplement pas d'abus. Oui. Si effectivement on s'aperçoit que sur le dernier quintetat il y a eu une recrudescence et il y a eu des dossiers là-dessus documentés, peut-être
des dizaines de millions d'euros quand même.
Il y a eu peut-être trop de recours, mais ça n'a rien à voir avec le financement illégal, parce que ça pour le coup c'est un autre dossier sur lequel il doit y avoir instruction et condamnation.
Rémi, intéressons-nous au départ du jour.
Alors, ce n'est pas encore acté, hein, mais
ce n'est pas possible.
La question est posée. Le PSG va-t-il quitter son stade mythique du Parc des Princes ? Le club négocie en ce moment avec la ville de Paris l'achat de l'enceinte depuis quelque temps déjà. Ça dure un problème. Le prix demandé, environ 350 millions d'euros. Alors même que le PSG, le club, a déjà investi 85 millions d'euros dans le cadre de la rénovation de l'enceinte pour l'Euro 2016. À tel point que la direction du PSG envisage de le quitter, ce parc, et pourquoi pas pour le Stade de France. Alors on sait que c'est une partie de bras de fer, c'est un peu poker menteur. Si vous ne vendez pas le stade au prix que je demande, bon bah moi je pars ailleurs. Mais là, la mairie de Paris rajoute une petite pièce dans la machine quand même, parce qu'elle dit que la vente du stade n'est pas dans ses priorités.
Mais non, mais quelles sont les priorités de la mairie de Paris ? Enfin, excusez-moi, mais personne ne comprend pas. Il suffit le nombre de chantiers sur la route, et on ne comprend pas bien quelles sont les priorités de cette mairie. Mais enfin, non, mais ce serait un drame, Fred.
Ah, mais de toute façon, les supporters du PSG sont immensément majoritairement contre ça, parce que c'est la spécificité de ce stade qui est quand même. Dans les beaux quartiers de Paris, quand même.
Mais il est formidable, ce stade. C'est vraiment qu'on n'aime pas le PSG, il est incroyable. Il est à pied,
c'est évident. C'est après, je me méfie aussi, il peut y avoir un écran de fumée, parce qu'il se passe quelque chose au PSG. Parce que le PSG, vous savez, maintenant, on va voir ce qui va se passer après la fin de la Coupe du Monde au Qatar. Parce que le PSG, c'est quand même une grosse opération de communication, d'investissement de communication, pour gagner la Coupe du Monde au Qatar, etc. Et comme il y a des soupçons. Au-delà de soupçons, de revente de jusqu'à 20% des parts du PSG du Qatar à un fonds d'investissement américain, c'est-à-dire en gros un désengagement du Qatar dans le PSG, qui commence à faire trembler un peu beaucoup de gens, parce que nous sommes beaucoup à penser que de toute façon le Qatar investit dans le PSG pour des raisons géostratégiques, et qu'une fois qu'ils auront fait leur grande opération de com avec la Coupe du Monde, peut-être qu'ils mettront moins d'argent dans le PSG.
Nasser, a dit qu'ils partiront pas.
Comment ?
Nasser, le président du PSG, a dit que le Qatar ne partirait pas.
Mais entre partir définitivement et vendre de plus en plus à la découpe le club, c'est autre chose. Parce que tu commences par 20%, c'est pas rien, hein, 20%.
Non, même.
Donc, je me méfie avec tout. Alors, les informations sont réelles. Hein, loin de moi, l'idée de critiquer nos confrères du Parisien, grand journal que je lis tous les jours. Mais non, mais c'est vrai, en plus, le Parisien est un super truc.
Bon, très bien. Bon.
Oui, Mais il y a un truc. Non, non. Mais le truc, c'est qu'on sait aussi comment sont filtrées les informations par moment depuis les clubs. Et ça peut être aussi un écran de fumée pour cacher, pour dire, vous voyez, on ne veut pas quitter le PSG. D'ailleurs, on veut peut-être leur offrir un grand stade.
Non mais franchement, ce ne serait pas du tout pareil si le PSG jouait au Stade de France. Oui. Déjà, géographiquement, ce n'est pas la même chose.
Ok, c'est sympa d'avoir un stade en plein Paris, mais pour avoir habité Porte de Saint-Cloud quand je suis arrivé à Paris dans un 10 mètres carrés, je peux vous dire que les soirs de match, tous les cafés du coin mettent des trucs en bois pour empêcher de casser les vitrines. Et je ne sors pas, moi, les soirs de match. Je ne sortais pas les soirs de match.
Ça met de l'ambiance dans le quartier, sinon c'est un mouroir, le 16e. Donc, excusez-moi.
La Porte de Saint-Cloud est un coin très vivant, avec une place qui est très vivante. Et je peux vous dire que les cafetiers, quand il y a match, ils font attention parce qu'ils mettent, des plaques en bois.
La dernière fois, j'ai été justement sur la place pour, Brésil-Tunisie, je peux vous dire que les cafetiers, ils étaient contents. C'était blindé de monde partout. Quoi. Les cafetiers, voilà, ils sont jamais contents. Mais en vrai, ça leur rapporte quand même énormément de gens.
À chaque fois qu'il y a un match, c'est un peu le bordel.
C'est aussi l'histoire des villes, le fait d'avoir des stades en pleine ville. Mais évidemment, vous n'aimez pas le foot, mais avoir des stades,
ça se voit.
Très bien d'avoir des stades en périphérie, mais aujourd'hui, autour du Stade de France, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de vie comme il y a une vie autour du Parc des Princes. Et puis, c'est un symbole, c'est l'histoire du club. L'histoire. Si vous commencez à tout détruire et à enlever l'histoire, vous voyez Arsenal, par exemple, il y avait ce stade d'Highbury qui était incroyable, coincé entre des immeubles. Ils ont enlevé ce stade aujourd'hui, et c'était les grandes heures d'Arsenal. Aujourd'hui, il n'y a plus d'âme. Et c'était un stade, mais c'était hallucinant. À Londres, les stades, ils sont en pleine ville, et ça fait partie aussi de la beauté
de la ville.
À Lyon
et Bordeaux, c'est compliqué d'y aller.
Comment ?
À Lyon et Bordeaux, c'est compliqué d'y aller au stade.
À Bordeaux, c'est à Bordeaux-Lac, effectivement, il faut prendre le tramway. Lyon aussi, c'est délocalisé. À Lille aussi. Et en fait, c'est parce qu'ils font des grands stades, etc. C'est certainement très beau, mais c'est plus l'histoire du club. L'histoire de la ville.
Tu fais le Real Madrid en train de faire le plus beau stade du monde, mais sans bouger. Et c'est dans la ville.
Exactement.
Et sans bouger, parce qu'ils considèrent que si tu enlèves le stade de la ville, c'est plus le même club, c'est plus la même ambiance.
Oui, vous ne pouvez pas m'empêcher de dire que c'est un peu le bordel quand même quand il y a des matchs par
le stade. Parce que vous voulez votre petite tranquillité bourgeoise, Thierry Moreau, mais pensez aux fans de foot.
Qui veut une ville musée.
Voilà.
Je veux juste pouvoir me balader dans les rues sans me faire agresser par des gens qui sont...
Parce que les supporters vous agressent peut-être. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre comme bêtise? Mais c'est incroyable. Mais c'est
hallucinant. Ah si, je peux en ajouter, moi.
Oui, bah,
sur cette affaire du PSG, je pense que le PSG devrait se délocaliser à Mamoudzou, qui est la capitale de Mayotte. Ça leur permettrait à Mayotte d'avoir une activité économique florissante. Mieux encore.
Vous avez toujours des idées assez incroyables.
Je fais la synthèse de tous nos débats. Oui. Je pense que le PSG aurait intérêt à demander à McKinsey, avec un contrat juteux, de leur trouver la solution à ce problème qui semble fondamental.
Et
ils auraient la possibilité de voir le Père Noël arriver dans le stade le 23 décembre au soir. En avance sur tout le monde.
Tu as dit quoi avec?
Avec son calendrier de l'avant.
Ah oui, oui,
ah, c'est
oui.
Ça. Vous avez oublié de parler des OQTF, mais c'est peut-être pas
j'ai oublié.
Le piratage du jour.
À Paris, on reste à Paris et on parle de foot. Une télécommande pirate permet aux anti-coupes du monde d'éteindre toutes les télés dans les bars en plein match. C'est réel. Hein. Une zapette pirate, donc comme outil de résistance pacifique au mondial, expliquent les organisateurs de cette action.
Moi, je trouve ça hyper drôle.
Moi aussi, ça me fait beaucoup rire. Je trouve ça très, très drôle parce qu'évidemment, les gens que ça éteint, ils peuvent leur allumer immédiatement, donc c'est pas très, très grave.
Non, moi, ça m'énerve. Je déteste cette Coupe du Monde, mais ça m'énerve. Genre de truc, ça m'énerve. Non, non, mais quand on atteint au plaisir d'autrui, mais non, ça, je déteste. Je déteste.
Tu sais que je l'ai fait il y a 16 ans. Quand j'étais à M6, en 2006, on a fait donc sur M6, on faisait 100% foot et une émission sur la Coupe du Monde. Et j'avais envoyé un stagiaire qui faisait une séquence qui s'appelait la télécommande et il faisait ça dans les bars. Mais c'était un peu chaud, on lui avait dit.
Bon, à l'époque, fais attention, cours vite.
Voilà. Ouais, à l'époque, les stagiaires n'étaient pas autant encadrés que maintenant. Quoi.
Et
on lui disait, fais quand même gaffe. Si tu sens un peu d'animosité, barre-toi.
Mais rassure-moi, c'était pas un stagiaire troisième.
Non, il était un peu plus vieux.
Il était adulte, quand même.
Non, non, et il a fait ça pendant pas mal de temps. Mais en vrai, les réactions, elles étaient.
Ah, mais c'est insupportable.
Folle dans le bar. Mais
attends, mais c'est comme quand tu regardes le match.
Ça très drôle. Oui, c'est une séquence dans une émission. Quoi.
Non, mais t'es chez toi, tu regardes le match, il y a quelqu'un qui passe devant toi, mais tu hurles. Quoi. Enfin,
oui, d'accord. Mais là, pour une fois que les écolos, c'est quand même plus intelligent, pardon, que de dégonfler ou de crever des pneus, d'aller foutre de la soupe de tomate sur un Van Gogh. Là, ça va.
Qu'ils aillent mettre de la sauce tomate sur les stades au Qatar. Ça, oui, j'applaudis.
C'est pas les écolos, mais je veux dire,
c'est le même genre.
Là, c'est des militants. Voilà, et c'est juste pour être contre la Coupe du Monde au Qatar. Bon,
non,
ça reste potable.
Cette Coupe du Monde, mais je trouve ça ridicule de faire.
Moi, je trouve ça potache. Julien Damon.
Oh, c'est assez potache. J'estimerais que ce serait utile si on pouvait, dans le métro, avec une télécommande ou une application sur son smartphone, débrancher tous les autres téléphones afin que personne ne hurle dans le métro. Donc, je suis plus pour lutter contre les incivilités avec ce type de truc que pour, c'est vrai, ennuyer le monde. Voilà.
Bon, je sais pas, j'entends jamais de gens téléphoner dans le métro.
Ah non, il y a plein de gens, c'est insupportable.
Et ils se mettent en haut-parleur.
Le métro, quand la dernière fois, Estelle.
Non, non, ils font des FaceTime, ils sont comme ça.
Ah ouais, comment tu vas? Il y a des matchs. Alors, ça, justement, il faudrait.
Enfin, ça veut dire j'ai mes écouteurs. Donc
bah voilà. Ouais, mais s'ils sont trop forts, pouf, on débranche.
Je les entends pas. Allez, on va terminer, mais rapido, avec la hausse du jour.
Allez, hausse des prix des jouets. Alors que Noël approche à grands pas, l'augmentation globale toucherait 63% des produits avec une majoration moyenne de 3,70 €. Bah, ça fait une hausse de 44%.
Mais tout augmente, ma bonne dame.
Bah oui, il y a aucune raison que, comme tous les secteurs sont touchés par l'inflation, que ce secteur, soit ce sont des jouets maintenant qui sont relocalisés en France et donc ça coûte un peu plus cher de les faire, soit ça coûte plus compliqué parce qu'on voit que le transport avec, via les containers a été plus compliqué depuis la Chine parce que beaucoup de jouets sont fabriqués en Chine. Donc il est logique que ce secteur, hélas, soit aussi touché par l'inflation, qui reste, je le rappelle, plus maîtrisé dans notre pays que dans les autres.
Allez, c'est la fin d'Estelle Midi. On se retrouve demain, évidemment, dans l'émission Midi 15h sur RMC Story. RMC, passez tous une excellente fin de journée. Salut à tous.
RMC, Midi 15h, Estelle Midi.